Chapitre 3. Dans une rue reculée et sans intérêt d'ici les Moulineaux, où s'opposaient deux barres d'immeubles à l'architecture aussi morne qu'anonyme, vivait Simon. Au troisième étage, côté cour, dans un trois pièces trop grand pour lui et trop exigu pour ses livres. La peinture des murs pouvait bien être terne ou écaillée, personne n'aurait pu s'en offusquer, puisque ceux-ci disparaissaient sous les alvéoles de cette ruche de connaissances. Il y en avait partout, du sol au plafond, jusque derrière les portes et au-dessus des chambranles. Le couloir de l'appartement sentait le vieux papier et ressemblait à une coursive de sous-marin par son étroitesse et son obscurité, blindée à la cellulose et à l'encre. Simon rentra de son jogging en début d'après-midi, un peu déboussolé par ce changement d'habitude. Normalement, il entamait sa journée par une heure d'effort, pour se sentir bien et pouvoir se consacrer entièrement à son travail par la suite. Mais il avait décidé qu'il fallait modifier sa routine. À 45 ans, ce qu'il avait instauré pour se garantir une hygiène de vie correcte devenait un processus mécanique sans intérêt. Dès l'adolescence, il s'était imposé d'entretenir son corps, pour que celui-ci ne soit jamais une entrave au bon fonctionnement de sa tête. Simon était un intello. Il en avait été très tôt conscient. Ce qui n'interdisait pas de cultiver sa forme physique, bien au contraire. Et depuis 30 ans, il courait et faisait ses pompes chaque matin. Avec la mort de Pierre, Simon avait décrété nécessaire de faire bouger les lignes. Question de survie. Il n'arrêtait pas de s'interroger sur tout. Tout remettre en question, tout revoir, tout repenser, comme si cela avait pu changer quelque chose. Ça n'avait pas de sens. Il le savait au fond de lui, mais éprouvait ce besoin de mouvement. Dans une fébrile tentative d'analyse psychologique de comptoir, il s'était dit que c'était un biais pour se prouver que même absent, et pour toujours, Pierre pouvait encore avoir un impact sur sa vie. Cela faisait 6 mois. Une demi-année sans son fils, à cause d'une saleté de tempête. D'après les témoignages, Pierre avait refusé d'attendre à l'abri à la fac. Il avait voulu sortir pour rentrer, et il s'était fait rattraper par ce monstre qui avait frappé le nord de la France. Il n'y avait pas plus d'explications, pas de coupable à blâmer, lui avait-on répété. Simon, lui, en avait désigné facilement. L'université, qui n'avait pas des protocoles assez rigoureux, pas les moyens ou ne se les était pas donnés. Et surtout, le gouvernement. Des monstres calculateurs, au service de leur carrière, jamais à celui des électeurs qu'ils représentaient pourtant. Simon les haïssait. C'était peut-être cette haine qui le tenait encore vivant. Il n'en savait rien. Pourquoi continuait-il au juste? Simon retira ses baskets, qu'il rangea aussitôt dans le minuscule placard à chaussures dans l'entrée, lui aussi écrasé par des colonnes de livres. Vaporisa une giclée de désodorisant dedans et referma pour aller se servir un grand verre d'eau. Après quoi, il entra dans le salon et sélectionna un vinyle dans sa collection. C'était la seule autre chose qu'il amassait en dehors des ouvrages. Du jazz, et rien que du jazz. Il opta pour « This is our music » d'Ornette Coleman. C'était parfait pour se mettre sur les bons rails. Du moins, essayer. Il le fallait. Coleman était festif. Sa musique tournait vers l'extérieur, bien pour se donner de l'énergie positive. Il se gardait son autre référence, John Coltrane, pour le soir, davantage une musique d'introspection. Son à fond, ses voisins n'étaient pas chez eux la semaine en journée, Simon prit une douche tiède pour terminer de se vivifier. Il enfila un polo et entendit les frottements répétitifs du diamant arriver au bout du sillon. Il s'accorda le temps de la phase B pour déjeuner sans appétit, un peu tard, des restes qui traînaient dans son frigo, sur un coin de la table du salon, le saxophone d'Ornette vibrant dans les enceintes. Il lâcha la bride à son esprit, qui vagabonda d'une pensée à l'autre, revenant souvent sur Pierre, un peu sur son travail. Et ça n'allait pas plus loin. La vie de Simon n'était, de toute manière, pas très riche. Fin de la session. Simon débarrassa et revint, avec son ordinateur portable cette fois. Le silence de la pièce était embarrassant. Il lutta à peine 5 secondes avant que ses yeux finissent par glisser vers la photo de Pierre, posée dans un cadre sur une pile de bouquins historiques. Le quadra soupira en fixant le portrait de son fils. 20 ans. Beau gosse. Regard pétillant sur papier glacé. Glacé comme son corps à présent. Froid, sous la terre des hommes. Cette même terre qui lui avaient arraché la vie. Ces mêmes hommes qui avaient fait que la terre arrache des vies. Simon secoua la tête. Ce n'était pas le moment de se lancer dans ce genre de boucle. Rien n'en sortirait sinon de la frustration, de la colère et une infinie tristesse. Il coupa le robinet de l'émotion en détournant son regard. Simon pouvait sembler distant parfois, mais c'était son fonctionnement à lui, pour tenir le coup. Étrangement, il n'avait presque pas pleuré depuis la mort de Pierre. Cela ne l'avait pas empêché mille fois d'éprouver un désespoir terrible. Simon n'était pas croyant. S'il l'avait été, il aurait probablement rejoint son fils depuis longtemps dans l'au-delà. Mais pour lui, la mort n'était que la dissipation de l'être dans le néant. La vie pour seul flash de conscience dans l'éternité. Il guetta le tiroir du bas, celui où étaient enfermés les médicaments. Beaucoup, bien assez pour tout interrompre. Simon soupira. Le flash de conscience allait durer. Encore un peu. Il alluma son ordinateur, il avait besoin de se plonger dans le boulot. Simon était sociologue. Il donnait des cours à l'université Paris-Sorbonne et publiait beaucoup, dans des revues spécialisées et des ouvrages de référence. Au moment du décès de Pierre, il avait hésité à tout plaquer, avant de se reprendre, et au contraire s'était immergé dans le travail comme jamais. Il en avait besoin. C'était sa rampe pour s'accrocher, se tenir à quelque chose de concret et tenter d'avancer, un pas après l'autre. S'il n'avait plus ça, alors à quoi bon poursuivre? Les mois filaient et Simon doutait que cela suffise. Il était seul. Bien trop seul. La mère de Pierre les avait quittés lorsque le petit n'avait que 5 ans. Elle ne supportait plus les contraintes de la vie de famille. Que le couple soit avant tout une entreprise autour de l'enfant. Que les soirées, les week-ends et les vacances soient conditionnées par le petit. Ni elle ni Simon n'avaient de proches pour les aider, pour garder Pierre au moins une fois de temps à autre. Et elle avait explosé en vol. Du jour au lendemain, elle avait bouclé une valise, expliqué qu'elle devait penser à sa survie et abandonner le domicile conjugal pour vivre. Simon avait cru que c'était un coup de sang, qu'elle allait revenir pleine de contrition et de bonne volonté au bout de quelques jours, quelques semaines au pire. Et bien sûr, il n'en fut rien. Elle ne demanda aucune nouvelle, ni n'en donna. Simon et elle n'étaient pas mariés, et elle se volatilisa ainsi hors de leur existence. Simon entendit raconter par des connaissances communes qu'elle était partie profiter dans le sud de la France, puis à Londres, pour vivre son égoïsme. À son adolescence, Pierre essaya de reprendre contact avec elle via les réseaux sociaux, et pendant quelque temps, à la grande surprise de Simon, elle sembla ouverte à l'idée. Mais elle disparut de nouveau presque aussi vite, lorsque Pierre évoqua l'idée d'une rencontre. Sur le plan émotionnel, ni le père ni le fils n'avaient eu de chance. Et Simon avait été quelque peu vacciné quant aux relations amoureuses. Il savait bien qu'il ne fallait pas généraliser, mais entre le boulot, préserver son fils de nouvelles désillusions affectives et ses propres réticences à faire confiance, Simon n'avait fait qu'enchaîner de courtes histoires sans avenir. Un triste modèle pour Pierre, se blâmait-il parfois. Mais il faisait ce qu'il pouvait. À présent que Pierre était mort, Simon était plus seul que jamais. Ne lui restait que ses livres et le jazz. Largement de quoi finir fou, songea-t-il, tandis que son ordi attendait qu'il entre le mot de passe pour s'allumer complètement. À nouveau, il fixa le tiroir du bas. Avec son contenu, tout serait réglé. Lui, l'homme cassé, serait réparé, définitivement. Comme il l'avait déjà fait 100 fois, il secoua la tête. Pas aujourd'hui. Pas encore. Combien de temps tiendrait-il avant d'avaler ses cachets, de les arroser avec son meilleur whisky sous la complainte de Billie Holiday et de son Strange Fruit? Ce n'était pas comme s'il n'y avait pas déjà pensé. Il avait préparé son départ, jusqu'à choisir la musique. Dépité par lui-même, Simon secoua la tête et s'apprêtait à taper le mot de passe quand une sonnerie retentit. Ce n'était pas l'interphone relié au hall du rez-de-chaussée, mais celui de son propre palier. Donc probablement un des voisins. Merde, la musique. Il pensait pourtant qu'il n'était pas là. Simon ouvrit la porte sans se méfier, prêt à se confondre en excuses pour avoir fait hurler le saxo d'ornette, et demeura bouche bée lorsqu'il avisa un homme et une femme au visage sévère qui le fixaient avec intensité. Ni leur look, ni leur expression ne leur conféraient un air rassurant. La femme brandit son portefeuille, qui s'ouvrit sur une carte avec une bande tricolore. « Vous êtes de la police ?» comprit Simon sans bien lire. « Pas exactement », corrigea la femme d'une voix plus douce que son physique sec et autoritaire ne le laissait présager. « Monsieur Privine, vous voulez bien nous accompagner ?»« C'est en lien avec mon fils ? L'enquête sur sa mort ?» Les deux échangèrent un regard entendu, comme s'ils s'étaient attendus à cette question. « Non, pas vraiment », répliqua la femme. Elle hésita sur la suite. L'homme à côté avança alors d'un pas et tendit la main vers Simon. « Nous sommes de la DGSI, le renseignement intérieur. Nous avons besoin de vous, Simon. »